Le monde est plein de gens intelligents qui prennent les autres pour des cons. En fait, le monde est plein de cons qui croient que les autres ne sont pas intelligents. Mais si on est vraiment intelligent, on devrait penser que les autres ne sont pas cons. C'est quand on est con qu'on pense que les autres ne sont pas intelligents. Pas con, non ?
Je rentre de la réunion, là, du collectif pour le rassemblement antilibéral. Et ça m'est venu ce soir, à la fin de la réunion. Parce qu'évidemment, on se pose des problèmes maintenant d'action. Là, d'ailleurs, ça vient assez la pêche, parce que maintenant, il me tarde de passer à l'action, quoi. C'est-à-dire d'aller distribuer des trucs, d'essayer de toucher du public, tout ça, quoi. Mais on a le problème du leader. C'est-à-dire, à la présidentielle, qui va être représentatif, quoi. Parce que moi, je compte quand même sur 20% au premier tour des présidentielles. Mais pour ça, il faut quelqu'un. Et je leur dis en déconnant à la fin. Et remarquez, il y a une solution. C'est Fabius. Comme il va être battu à l'investiture PS, il n'a plus qu'à venir avec les antilibéraux. Et alors ils m'ont dit, non tu rigoles, mais en fait ils y ont tous pensé quoi. Alors, puisqu'il est antilibéral, mais qu'il rejoigne les antilibéraux, parce que c'est ça qui nous manque par rapport au référendum. C'est-à-dire toute la frange du PS qui était contre, qui était pour le non quoi au référendum. Alors, s'ils viennent avec les antilibéraux, là on est au second tour hein, de la présidentielle. Non seulement on est au second tour, mais on la gagne en plus. C'est-à-dire que, vous voyez, le truc que ça paraissait irréalisable, tout ça, eh bien, le libéralisme vit ses dernières semaines. Non, mais il faut y croire, quoi. Voilà, c'est pas mal comme idée, hein. Faut lui dire à Fabius, voilà, on s'en fout du moment qu'il gagne avec des idées antilibérales. Après, il sera plus ou moins obligé de s'y tenir, quoi. Puis surtout, les alliances ne seront pas les mêmes. Hein ? Vous en pensez quoi de mon idée ?
Ouais, salut Daniel, là, c'est Jérôme de Bretagne, enfin de exactement à côté de en Bretagne, quoi. Je téléphone par rapport aux émissions sur les prisons, puis j'ai regardé aussi Canal Plus hier soir, donc très intéressant. Moi, je suis un ancien détenu. J'ai fait environ 10 ans de prison. Et sur ma dernière peine, j'ai fait 7 ans plein, comme on dit, entre détenus. Alors moi, je suis tombé pour braquage la dernière fois, pour vol à main armée. Et je suis sorti en conditionnel, grâce à ma femme. Moi, ce que je peux dire sur la prison, c'est que c'est un milieu infâme. Infâme, mais infâme aussi à cause de l'administration pénitentiaire, hein, puisque c'est elle qui gère ça, donc... Et qui ne fait pas grand-chose pour les détenus, hein, à part de la répression. Moi, j'ai vu des choses effroyables en prison, hein, je peux le dire. Pourtant, moi, j'étais quelqu'un de dur à l'époque. On va dire presque insensible. Mais moi, je suis sorti de là-dedans avec une sensibilité exacerbée. Hein, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à des choses qu'on ne voit que... C'est possible qu'au 19e siècle, on va dire, hein, parce que là, moi, j'ai vu des choses incroyables, quoi. Et puis bon, la réinsertion en prison, moi, je l'ai vu nulle part. Hein, les relations familiales, moi, j'ai fini ma peine au centre de détention de Nantes, là, avec le directeur Gégo, Alain Gégo, triste cire. Les relations familiales, c'est pas, on aurait dit, la cour des miracles, quoi, avec un bruit infernal d'une saleté repoussante. C'était du n'importe quoi, quoi.
Oui, Daniel, c'est bien hein, de essayer de penser à des solutions alternatives à la prison. Mais excuse-moi, hein, quand j'entends ces espèces de bêtes sauvages qui ont 100 mots de vocabulaire et le QI d'un poulpe, eh ben, je préfère qu'ils soient en tôle plutôt qu'ils volent des ambulances et qu'ils écrasent des enfants.
Oui, bonjour, c'est l'association En Vrac de défense des petits vendeurs précaires de Saint-Sernin. Donc actuellement, il y a 150 petits vendeurs précaires qui ont été expulsés depuis le 8 octobre du marché Saint-Sernin. Donc en fait, c'est une tradition du marché Opus qui disparaît puisque ils ont été remplacés par des stands d'antiquaires avec une marchandise et une clientèle totalement différentes. Donc les petits vendeurs qui se sont mobilisée et organisée en association, dont je suis la présidente, organise une manifestation de solidarité le samedi 18 novembre sur le marché Saint-Sernin, entre 10h et 11h, donc pour réintégrer le marché, pour que la tradition du marché aux puces ne disparaisse pas sur Toulouse. Je vous laisse, donc moi j'appelle tout le monde à nous rejoindre en solidarité, j'appelle tout le monde aussi à venir vendre, il y aura beaucoup d'associations de soutien. Je m'appelle Françoise Gondard et je suis la présidente de l'association. Au revoir.
Alors ça, Françoise, on vous soutient. Moi, je vous soutiens parce que je connais ce petit marché, le marché de Saint-Sernin. Et c'est sympa, c'est drôle, c'est vivant. On y vend des vraies puces, quoi. C'est un vrai marché aux puces. Ça m'est arrivé plusieurs fois à Toulouse d'aller me balader là le dimanche matin. Et c'est vraiment désespérant et navrant que ce soit remplacé par je ne sais quelle bande d'antiquaires péteux et prétentieux. Je suis fou de rage comme vous. Il faut absolument que les petits vendeurs précaires de Saint-Sernin restent autour de cette église et vendent leur truc. Voilà, donc moi je vous encourage personnellement. Et donc je vous rappelle ce que vient de dire Françoise. Donc samedi 18... Je sais pas si c'est le samedi ou le dimanche matin, vous vérifiez, hein, amis toulousains. Samedi 18, donc, allez les soutenir, pardon, entre 10h et 11h. Et puis allez vendre, et allez-y, c'est un petit endroit encore très sympa. Merci pour vos messages, merci à cet ancien détenu pour son témoignage, vous avez été nombreux à témoigner et à envoyer des messages, à donner des messages, votre avis sur le reportage d'hier, et puis sur la journée entière d'hier qui a été consacrée à l'état des prisons en France. Et bien évidemment que nous, on avait pris une position un peu... on avait pris un angle qui était celui de dire « Et si on fermait les prisons ?» ou « Si on les ouvrait comme on veut, si on supprimait les prisons ?» Ce qui nous a valu, évidemment, c'était prévisible, des réactions très fortes comme celui-là, comme cet auditeur qui dit « Ah oui, d'accord, on voit que on n'a jamais violé votre fille, etc. » C'était prévisible, mais c'est un sujet toujours évidemment très poignant que celui-là. Aujourd'hui, on retourne en Afghanistan, on continue notre balade en Afghanistan avec l'opium. Vous savez que l'Afghanistan est devenu un narco-État, on peut vraiment dire un narco-État, mais qui a ceci de particulier, c'est qu'il est soutenu par la communauté internationale, puisque des forces occidentales sont présentes, qu'il y a une aide internationale qui est censée soutenir l'Afghanistan. On l'a dit et redit, c'est un échec complet au bout de 5 ans. Mais comment ça fonctionne l'opium cette année? L'Afghanistan a battu son record de production d'opium, de pavots d'opium, c'est-à-dire d'héroïne. Et les toutes dernières nouvelles indiquent que cette héroïne s'acheminerait vers l'Europe, vers la Suisse et vers notre bel hexagone. Donc il y a du souci à se faire et on s'en fera jusqu'à 16h dans la base où j'y suis. Auparavant, quelques messages encore parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base où j'y suis au 01 56 40 37 37.
Daniel, salut, c'est Marc et Mathieu du Lot. On voulait passer une petite annonce sur le répondeur. On organise le lundi 27 novembre à 18h à la salle des fêtes de Laval de Serre une grande réunion publique pour présenter le film documentaire que Marc va réaliser sur le site de l'ancienne usine Péchinet qui a fermé il y a 20 ans dans ce village de Laval de Serre. Donc Laval de Serre, ça se situe dans le Lot, dans le canton de Bretonneux et c'est à la limite de la Corrèze. Voilà, donc à tous les auditeurs de la région, si vous voulez venir participer à cette réunion, amener vos souvenirs, on en sera ravis. À très bientôt.
Salut Daniel, c'est SFR. Allô, tu m'entends? Non, normal. C'est vraiment un réseau de merde. Pourtant, numéro 1. Bonne nouvelle, les actionnaires s'en mettent plein les poches. Jackpot grâce au détournement des subventions qui auraient dû créer des emplois mais développent la précarité. Et tu sais quoi? Nous, on est le service client, on nous aménage notre temps de travail. Super, fin des horaires alternés. À nous les horaires fixes avec gel de salaire, perte de RTT, coupure repas version choco-BN de 15h30 à 16h30 et une vie sociale qui se casse la gueule. T'es pas content? Tu te casses, c'est le but. Et en plus, on t'accompagne. Daniel, tu veux un conseil? On va peut-être te le filer, mais c'est sûr, tu vas raquer. C'est ça le service client numéro 1. 3 jours de grève, toujours mobilisés. Daniel, soutiens-nous, chers amis modestes et géniaux. Appelez le 06 1000 1900 maintenant pour faire péter le standard.
Bonjour Mermet, bonjour l'équipe. Je vous téléphone, c'est Christine de Nîmes, pour rappeler à nos chers AMG de Nîmes et de ses environs que nous nous retrouvons ce soir, comme convenu, au Petit Subito à partir de 19h23. Voilà, comme on passe à 2 fois par mois, et oui, j'ai peur que certains l'aient oublié. À bientôt.
Est-ce que vous avez goûté un peu ce que vous vendez? Parce qu'un bon commerçant, il sait de quoi il parle. Non?
Nana, tu bouilleras si tu en as, am gangasiu. Mangarpalam da nayachu ne huru, pois tu as ramu quoi dans nos pierres au carnu suka walekana.
Mais non, mais on peut pas travailler ici, au moins ça. C'est... Moi, j'en prends pas.
Dans certaines régions échappant à tout contrôle, on trafique l'opium en toute impunité. Dans les champs afghans, la fleur de pavot foisonne à l'ombre de cultures plus avouables.
Ah, qui est-ce qui le cultive ici, le pavot?
Oui, tout le monde il cultive parce qu'on a besoin.
On est obligé.
On a besoin.
L'Afghanistan serait-il devenu le plus grand champ de drogue au monde?
Normal que t'es allé, Gikana. Non, non, quand t'es zawas, pas la chabarne, mané, dili,
ça part dans tous les pays, ça part un peu partout. Moi je sais pas, moi je vends et je sais pas où ça part.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil. Un retour en Afghanistan.
Flight number 2. Arriving
on vient de faire quand même un long trajet depuis Jalalabad, hein, à travers des paysages secs, rocailleux, poussiéreux, et on a roulé comme ça pendant une heure dans le, comme le lit d'un fleuve, hein, de caillasses, de pierres, et il fait assez chaud, il fait plutôt chaud, mais surtout il fait très 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 sec. Et puis là, on arrive dans ce village bizarre, tout est immobile, rien ne bouge, sous le soleil et la sécheresse. Et là, ce qu'on voit, c'est très beau. Il y a des enfants qui me regardent, qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce type, hein, qu'est-ce qu'il raconte et tout ça. Là, il y a 2 vaches assez paisibles. Ils sont en train de brouter des choses très sèches dans cette atmosphère et cet air très, très sec. Alors, ça, toi, tu es Almos. Almos.
Ça veut dire diamant.
Alors, explique-moi pourquoi tu nous as amenés là.
Nous sommes à Zohil, dans la province de Nangarhar.
ما اینجا آمدیم که معلوم کنیم که چرا دهقانان ما کشت تریاک میکنند.
On est venu ici pour voir pourquoi les paysans se mettent à cultiver le pavot.
Ça fait longtemps qu'ils cultivent le pavot.
از بسیار وقت میشه که کش میکنند. پیش از چند سال در جای مخصوص کش میشد. باز در دیگر جای سرایت کرد.
En fait, ça fait longtemps qu'on cultive le pavot ici, mais c'était dans certains coins, pas partout. Et depuis quelque temps, ça s'est répandu sur l'ensemble.
Ça s'est généralisé. Voilà, un monsieur qui arrive avec sa barbe blanche et
c'est
ça. Ah oui, les mains calleuses, mais très très calleuses et le visage très très buriné.
Shingol.
Il s'appelle Shingol. C'est un agriculteur du coin.
C'est un paysan du coin.
Il a à peu près 60 ans.
Ah.
Et 6 enfants. J'ai 3 hectares de terre.
3 hectares, c'est beaucoup? C'est tout petit.
Petit.
C'est tout petit. Et qu'est-ce que vous faites comme agriculture? Qu'est-ce que vous faites pousser?
Non, ça va. Tu vois, ça marche. On peut n'arrêter que le bouquet. Nous, on va faire un bouquet de pédage. On va n'en pas au cœur. On est là, t'as pas les mains. Il y a au moins une manche de la main. On arrête
que. S'il y a de l'eau, je vais cultiver du blé. Et s'il y a pas d'eau, je fais du pavot.
Alors, qu'est-ce qui rapporte le plus, le blé ou le pavot?
Non, non, avec le blé, on ne peut rien faire. On ne peut même pas acheter des vêtements pour les enfants. C'est le pavot qui rapporte le plus.
Nous offrons 2000 dollars pour tout occidental qui sera capturé. Nous avons 600 candidats qui sont prêts pour les attentats suicides. Ainsi s'exprime le mollah Rozayak Nurzai, qui est le commandant taliban de Helmand, de la province de Helmand. Qu'est-ce qui fait que ce mollah taliban, vous l'avez compris, est aussi menaçant? Ben, on a peut-être un peu la raison. Qu'est-ce qui fait que chaque jour, et de plus en plus ces derniers temps, cette dernière année, en Afghanistan, la rébellion s'organise, se renforce, et que ce pays est en train de passer hors contrôle. 5 ans après, nous revenons en Afghanistan, vous vous souvenez, c'était le 13 novembre 2001, Kaboul tombait, vous vous souvenez de ces images. Que s'est-il passé en 5 ans dans ce pays? Oh ben ça s'arrange, on construit un état, petit à petit ça va rentrer dans l'ordre. Eh bien, pas du tout. Il semble bien qu'au bout de 5 ans, le bilan soit un échec total et un chaos dont personne ne voit comment on pourra s'en sortir. Qu'est-ce qui fait qu'on ne parle pas de l'Afghanistan comme on parle de l'Irak? Qu'est-ce qui fait que la menace semble, dans l'immédiat, moins forte? Eh bien, c'est grâce à l'opium. L'Afghanistan s'est mis à cultiver, les paysans afghans se sont mis à cultiver de l'opium et tout un trafic s'est branché, articulé sur cette activité. Si bien que cette année 2006, l'Afghanistan a battu son record de production d'opium avec 6100 tonnes d'opium, soit 92% de la production mondiale, ce qui représente 33% de l'économie afghane. 28 provinces sur 34 cultivent aujourd'hui le pavot en Afghanistan. Le revenu du trafic est estimé à presque 3 milliards de dollars, soit plus de la moitié du produit intérieur brut de l'Afghanistan. Par comparaison, la drogue en Birmanie représente 25% du PIB, au Laos 7%, en Colombie 3 et quelques pourcents. Donc, en matière d'opium, hein, je parle pour la Colombie. Donc, c'est l'économie. Toute l'économie de ce pays repose là-dessus. Alors, à qui ça rapporte? Voyons tout de suite à qui ça rapporte. Eh bien, ça rapporte en partie aux paysans, très pauvres, l'un des pays les plus pauvres du monde, l'Afghanistan, et qui se partage à peu près 20% de des revenus du trafic de l'opium. Et 80% reviennent à des trafiquants de toutes sortes, des seigneurs de guerre, toute une filière classique d'ailleurs qu'on retrouve partout où il y a trafic de stupéfiants, de drogue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces trafiquants, eh bien, il y en a beaucoup qui sont au pouvoir, carrément. On estime, des études produites par les Nations Unies, par l'agence spécialisée des Nations Unies, estime que 25% des 249 élus du Parlement ont des liens avec la production et le trafic de l'opium en Afghanistan. 70% du trafic se fait avec des complicités gouvernementales, la plus grande banque d'Afghanistan est liée au trafic, etc., etc. Corruption, donc, à tous les étages dans ce pays, qui devient effectivement un narco-état. Et puis, il y a l'éradication. L'éradication, c'est-à-dire que le président Karzaï s'est lancé dans une guerre sainte contre l'opium. Il n'en pense évidemment rien, mais il est poussé par les États-Unis, par la Grande-Bretagne, qui lui demande de faire ça sans y croire non plus. Mais il faut bien. Et on a dépensé ces dernières années 2 milliards de dollars pour cette éradication qui n'a servi absolument à rien, sauf à pousser ces paysans pauvres dans les bras des talibans. Ce qui fait que ce chef des talibans peut nous dire qu'il a des 600 candidats aux attentats suicides et qu'il offre 2000 dollars pour tout occidental capturé. C'est un retour en Afghanistan, c'est sur France Inter, c'est jusqu'à 16h et c'est la basse édition.
Mangol da 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 na Swachi zara che mayina Nadi dan sava Махравадава Чизамая Диман ватан банди ар лор ди бахар нара шагора Самра хани каби нара шаго Самра хани каби нара шаго
L'Afghanistan serait-il devenu le plus grand champ de drogue au monde? Les talibans avaient réussi à éradiquer la culture du pavot, mais depuis 3 ans, la production s'est envolée. 1 Afghan sur 10 vit de cette activité. Hamid Karzaï dit avoir déclaré la guerre sainte à la drogue. Ce ne sera pas son moindre défi.
Voilà, le sujet est planté. On va tout de suite aller voir Monsieur Bachardoust. Vous vous souvenez de Monsieur Bachardoust, Ramazan Bachardoust, cet ancien ministre du plan, en Afghanistan. Ça, c'est vraiment héroïque, tellement de plans. S'il y a une chose qu'il n'y a pas en Afghanistan, il y a de l'opium, mais il n'y a pas de plan, ça c'est évident. En tous les cas, il fut ministre du plan et il a démissionné, Ramazan Bachardoust. Et il nous a expliqué pourquoi il a fait... C'est un homme qui a un parcours particulier, qui a fait ses études en France, des études supérieures, des études politiques, et qui s'est mis à la disposition de son pays il y a quelque temps, après, dans le cadre de cette reconstruction, et qui s'est battu surtout contre les ONG. Vous vous souvenez de ces... Ça nous a valu d'ailleurs pas mal de réactions des auditeurs, mais c'est pas moi qui parlais, c'est lui, c'est Monsieur Bachardoust. Et aujourd'hui, donc, il a démissionné de son poste de ministre du plan, et il est installé dans un grand square, une sorte de parc poussiéreux au milieu de Kaboul, où, et dans cette tente, eh bien, il y a des sièges quand on entre là, on peut venir lui parler et l'écouter. Il prépare, il continue de faire de la politique, il croit beaucoup, beaucoup à l'avenir de son pays. En tous les cas, il se bat. Donc, il nous avait parlé, au cours de cette longue conversation que nous avons eue avec lui, des ONG, et aussi il nous parle de la question de l'opium et de la drogue dans son pays.
La culture de la drogue en Afghanistan a augmenté depuis un an 60%. 92% de la drogue du marché international est produite en Afghanistan. Et en même temps, vous savez que dans l'accord de Bonn, on a donné la charge de lutter contre la drogue, la culture de la drogue, au gouvernement anglais. Après, l'année dernière, le gouvernement américain a aussi participé pour un an, seulement pour un an, 2005, le gouvernement américain a donné 280 millions de dollars pour lutter contre la drogue. Et selon les chiffres officiels, depuis l'arrivée au pouvoir de M. Karzai jusqu'à aujourd'hui, 400 millions de dollars qui ont été dépensés pour interdire la culture, la trafic, la production de la drogue en Afghanistan, depuis mon Afghanistan. Mais le résultat, c'est à l'inverse. Au point qu'en un an, 60%, il y a d'augmentation au lieu que ça diminue. Et ce qui est le plus important, je crois, c'est que l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Jalali, qui est aujourd'hui aux États-Unis, au cours d'une conférence de presse publique, il a dit qu'il y a une liste des noms des hauts fonctionnaires afghans, des hautes autorités de l'État afghan qui sont mêlées à la culture et à la trafic de drogue en Afghanistan. Mais le ministre de l'Intérieur n'a même pas osé donner le nom de ces hauts fonctionnaires afghans, de ces hautes autorités afghanes, alors que c'était le travail, c'était le devoir du ministre de les traduire en justice. Ce qui signifie que ces mafieux de la drogue sont tellement puissants que le président Karzai ne peut même pas oser de diffuser leur nom. Ce qui importe, à mon avis, c'est que, si on se rappelle, Mullah Omar, à l'époque, avait donné un ordre oral, même pas écrit, que la culture de la drogue doit stopper. Selon le rapport même des Nations Unies, ça a été appliqué à 95%. Personne n'osait se livrer à la culture de la drogue. Et il n'avait pas les dollars, les forces militaires, quoi, M. Karzai, aujourd'hui derrière. Il y a des gens qui ont dit qu'ils voulaient stopper la culture parce qu'ils voulaient que le prix augmente. Ils avaient Mullah Omar et Taliban, ils avaient des réserves et ils voulaient couler ça à peu près. Donc, peu importe ce qui était la raison de prendre cette telle décision, ce qui importe, c'est qu'un homme assis dans une province avec un œil est capable de stopper la culture. Et je pense que tant qu'il y a le président Karzai au pouvoir, tant qu'il y a cette équipe gouvernementale, il est impossible qu'on lutte contre la drogue. Les Afghans sont convaincus que les hautes autorités afghanes sont mêlées dans ce trafic de drogue.
Ils en sont convaincus et ils le vivent tous les jours dans leur vie à travers les fameux seigneurs de guerre qui règnent sur des régions entières, qui disposent de milices à leur service, d'importantes forces donc qu'ils sont capables de payer précisément avec l'argent du trafic. Mais ces forces permettent le trafic. Et en tous les cas, ça ne permet pas la construction, évidemment, d'un État. C'est évident que si les seigneurs de guerre localement ont toute la force et la puissance, ce sera impossible de construire un État. Mais ce qui nous avait réjoui ici, les élections ont hélas permis, l'un des effets pervers, c'est que on a cru devoir intégrer ces seigneurs de guerre au gouvernement, disant, bon ben voilà, vous allez faire partie du gouvernement, comme ça, on va constituer. Eh ben non, ça leur donne une immunité supplémentaire, puisqu'ils sont, ils font partie du gouvernement. Immunité qui leur permet de renforcer leur trafic, d'utiliser, par exemple, des avions militaires, pour évacuer, enfin pour transporter la drogue dans les pays alentours ou pour transporter des fonds à Dubaï ou ailleurs. Donc c'est véritablement une mafia qui s'est emparée de ce pays, qui règne aujourd'hui sur ce pays avec ces petits paysans comme ceux que nous retrouvons ici à Zakel dans la province de Nangarhar, qui eux sont simplement dans la survie, puisque je le rappelle, en matière de trafic, les paysans, c'est-à-dire ceux qui font pousser le pavot avec ses champs, vous voyez, roses et blancs qu'on voit au printemps, on connaît bien ces images, eh bien, eux se partagent 20% de l'ensemble de la production, et les trafiquants, dont cet entourage du gouvernement, ces seigneurs de guerre, se partagent 80%, avec bien évidemment d'autres effets à n'en plus finir tout au long du processus jusqu'au type qui est en bas de l'immeuble et qui se shoote.
Je m'appelle Shams Rahman. Je viens du village de Zahel. En ce moment, il y a la sécheresse ici dans le coin. Nous sommes obligés de cultiver le pavot parce que ça a besoin de moins d'eau.
Pour qui vous travaillez? Est-ce que la terre est à vous? Vous avez des terres qui vous appartiennent, vous?
J'ai ma propre terre, oui.
Et vous travaillez tout seul sur votre terre ou vous faites travailler d'autres paysans?
Oui, toute la famille participe à la culture.
Et vous avez combien de terres, vous? Quelle surface?
J'ai 15 hectares ici.
15 hectares. Et combien ça vous rapporte, ça, par an?
Ça me rapporte à peu près 400 000 afghanis par an. Ça fait 8 000 $.
8 000 $ par an. C'est pas mal, ça.
C'est pas négligeable.
Alors, encore une fois, nos deux amis paysans, là, ça fait très longtemps qu'ils font ça. Ça date pas d'hier. Ils viennent pas de commencer.
Oui, ça fait depuis qu'ils sont nés, ils ont cultivé le pavot ici dans cette région. Et depuis 2 ans, ils n'ont pas cultivé le pavot. Et maintenant, ils ont une vie un peu plus difficile depuis 2 ans.
La situation s'est détériorée.
Pourquoi vous avez arrêté depuis 2 ans?
Non, parce qu'il y avait le gouvernement qui est venu nous interdire ça.
Ah, d'accord. Le gouvernement est venu vous interdire de faire le
pavot. Oui, ils sont venus nous interdire la culture de pavot. Ils nous ont dit qu'on allait nous emprisonner en ville.
Et donc vous avez arrêté?
Même si tu me tues, moi, j'arrête pas.
Et toi, est-ce que tu es...
Oui, non, moi, j'arrête pas non plus. Qu'ils me fassent n'importe quoi, j'arrête pas de cultiver. Et on va dans les terres un peu lointaines pour cultiver.
Ainsi parlent les paysans afghans par rapport au pavot et à l'opium. On va voir le problème à travers les yeux d'un chercheur, d'un sociologue, qui est Alain Labrousse, qui est un des meilleurs spécialistes de ces questions, et qui a sorti un bouquin il y a quelques mois qui s'appelle « Opium Afghanistan, opium de guerre, opium de paix ». Et c'est un gros bouquin passionnant sur l'Afghanistan en général, qu'il connaît bien, et à travers évidemment la question principale, qui est la question aujourd'hui de l'opium. Parce que, quelle est la raison de la présence occidentale, les forces occidentales en Afghanistan, à travers les forces contrôlées par l'OTAN ou les forces de la coalition américano-britannique, c'est la lutte contre le terrorisme. Ça fait 5 ans que ce qui justifie cette présence, c'est la lutte contre le terrorisme. Ça n'a pas donné grand-chose pour l'instant, parce que on n'a toujours pas mis la main sur Ben Laden, pas plus que sur le Mollah Omar. Donc, pour des puissances pareilles, c'est quand même un bilan pas très bon, quand même bien. Mais il y a aussi que ce qui justifie cette présence, c'est la reconstruction de l'Afghanistan. Très bien, sauf que ça semble être un échec aussi. Et puis il y a une autre raison encore, c'est la guerre contre la drogue, ce qui se fait en Amérique latine. Dans pas mal de pays d'Amérique latine, souvenez-vous de nos reportages par exemple en Bolivie. Donc cette guerre à la drogue, on en voit les effets à travers ce que nous disent les paysans. Ils voient bien que c'est plus qu'une volonté d'éradication ou d'imposer une loi. Ils voient à travers cette éradication une quelque chose de l'occupation, quelque chose d'étranger qui vient les empêcher de vivre simplement. Aujourd'hui, le point sur cette situation par Alain Labrousse. Rappeler que l'Afghanistan est en train de se construire. Bon, on espère, mais tout ça, ça se fait sous le contrôle de la communauté internationale. En l'occurrence, les forces militaires d'Enduring Freedom sont toujours là, et puis il y a aussi les forces militaires sous contrôle de l'OTAN. C'est dire si la communauté internationale est présente, et puis est également présente à travers des ONG, des budgets divers et variés pour construire. Est-ce que c'est un échec de ces politiques, de cette présence
sur le plan de la drogue? En tout cas, c'est manifestement un échec, puisque l'éradication n'a pas pu contrecarrer l'augmentation des cultures, et que ce qui est un échec surtout, c'est cette phénoménale augmentation de 60%. Mais c'est un échec qui ne fait que traduire aussi l'échec militaire. Dans certaines provinces, l'Helmand est en train d'échapper aux troupes anglaises. Kandahar, on contrôle plus en dehors du périmètre de la ville, et ils sont capables, les talibans, de faire des attentats très durs. Donc, échec militaire, et puis échec économique également, parce que les paysans ne voient pas leurs conditions s'améliorer. C'est aussi une des raisons pour laquelle ils cultivent de plus en plus. Et en plus, échec de la lutte contre la corruption. Il faut pas tout mettre sur le dos des talibans. Si on regarde les statistiques, entre 2005 et 2006, le Badakhshan, où il n'y a pas l'ombre d'un taliban, a connu une augmentation de 77% des cultures. 13 000 hectares, c'est rien à côté des 60 000 de l'Allemande, mais c'est une augmentation quand même très sensible. Or, ce sont des gens qui sont censés être proches du gouvernement. Donc, il n'y a pas que les talibans, et ça provient aussi du fait que le gouvernement a des alliés qui sont des trafiquants. En particulier, je cite dans mon livre, mais ça n'a fait que se confirmer depuis, la famille des Arunsada dans l'Allemande, qui étaient des moudjahidines très liés au trafic de drogue à travers la première génération, Rasoul, Nassim, etc. Et puis, les enfants de cette génération continuent à être dans la drogue. Les Américains ont découvert chez le gouverneur Sher Arunzala des dizaines de kilos d'opium dans ses bureaux. Bon, il a dû dire que c'était de l'opium saisi, etc. Mais les Anglais ont obtenu son limogeage de gouverneur à l'été 2005, et Karzai est empressé de le nommer au Sénat, la Chambre haute.
Où il est intouchable maintenant.
Il est intouchable, et c'est son frère Amir qui est vice-gouverneur de la province et qui est probablement à la tête des réseaux.
Va mahbubey çulale dağ şebnem darım ey düz Hıcam hınayık rahame yek barım ergez Çiter mergidem adem darım ey düz Avaki şerşer mi kune ey can Mişaki berber mi kune ey yar Dil yadı dil ben mi kune Begzar bin alem sebzeme Ta kay ben alem sebzeme
ها کارت کارت فور اور سے دادا یہ میچ تو کہ کر دے کنا
ہاں یہ میچ
کرے جوڑا کرے ورتا
یو
Oui, nous commençons à planter au mois de Akrab, c'est le mois de novembre.
Alors, vous allez récolter quand?
C'est au mois de mars qu'on va récolter.
Et alors, votre pavot, qu'est-ce que vous lui faites? C'est quoi le traitement?
Nous bien bas la reine russe là d'Akhirinis allemande ou beaucoup. Au bien parce que nous avons pas la nécessité à sa main là où elle. J'ai à pinter le tablier.
On prépare le pavot, le bulbe. Et on cisaille le bulbe pour faire sortir l'opium.
از اونموش جوس میبره شوکی جوس که شوکی بر اومد میمونه که شو یک کم خشک شوه که خشک شد صبحی میره جمع میکنه
ای quand on a cisaillé le bulbe en griffe avec des choses pointues comme des aiguilles en fait on laisse le soir pour que ça soit un peu plus épais parce que c'est du liquide qui sort du bulbe et le lendemain on retourne en fait pour récupérer cette pâte voilà cette résine
باز اینمی تا پیشینه خب جمع میکنه پس از پیشین باز میزنه.
Jusqu'à midi, on récolte cette résine et puis après-midi, on re-cisaille le bulbe.
Bosse ou baki bosse jamais kana.
Et le lendemain, on recommence à récolter.
So, enemy process ta che 20 25 jours d'avant kana.
Et ça dure 25 jours comme ça.
C'est ça. Chishman, butishman ne, kate gozeshman. Ira gozesh mekana, ura mera khana ura mezana tokhmesh mekasa.
Et après, on récupère le bulbe, on l'amène à la maison pour prendre les graines.
Et après, il reste la
tige seulement. Et la tige, ça c'est pour brûler, en fait. On s'en sert comme combustible, voilà.
Voilà, un trafic qui rapporte 3 milliards de dollars, presque 3 milliards de dollars à l'Afghanistan, soit près de la moitié du PIB, du produit intérieur brut. Évidemment, vous en doutez, la répartition de ces 3 milliards de dollars ne se fait pas de façon tout à fait équitable. Qui consomme ? J'évoquais les consommateurs. Alors on s'inquiète pas trop de ces histoires-là chez nous parce que, bon, c'est une consommation régionale. Beaucoup en Iran, il y aurait 4 millions, ça me semble énorme, de consommateurs d'héroïne. Pas mal au Pakistan, 1,5 million, et puis dans les pays voisins, Ouzbékistan, etc. Mais les pays d'Europe ne seraient pas concernés. Or, un récent rapport, je le disais, c'est quand même préoccupant, des Nations Unies, UNODC, indique que ces récoltes très très importantes, 6100 tonnes hein, pour cette année, eh bien vont s'acheminer vers les marchés européens, suisses entre autres et probablement français. Quel est le à partir de l'endroit où nous sommes de ce petit village de Sahel, quel est le cheminement du produit almas.
Aga paisa dashta basha ya kami maldar basha ira be ak do se ma ya shash ma nigah mikone ke narkhish beland bara.
Si la personne qui a récolté l'opium s'il a de l'argent, il le garde pour que le cours monte. Il le vendra à ce moment-là. Sinon, il est obligé de le vendre tout de suite.
Wa baz azu ba inami qashaqpora namegem dega tijarai mahali deqana mefrosha.
Et après il y a des commerçants du coin qui viennent racheter le pain.
Et lui après ce petit commerçant, il va le vendre à qui?
Kho tijar mahali ki kharid pas azu dega az 10 nafar kharid az 20 nafar kharid ura mebara ba bazar bazar ki taryak forokhta mesha.
Et après ces petits commerçants qui rachètent à une vingtaine de personnes de leur opium, il l'amène au bazar.
Le bazar, il est un mec qui est un ami de tijarai mahali, il y a un tijar kalan baz, il y a un collègue qui est un tijarai mahali, il y a un tijar kalan mefrouché.
Et tous ces petits commerçants le vendent à un grand commerçant.
Drug lords, il y a un gofta mecha.
C'est les seigneurs de drogue qu'on appelle les trafiquants, en fait.
Voilà. Et eux, ils vont transformer, ils vont opérer la transformation en héroïne.
Il y a un ami de tijarai که از تجارت محلی خریده یا تبدیل میکنه یا به خاطر تجارت کالان از دیگه اونمود د خود افغانستان یا د پاکستان به هیروئین تبدیل میکنه پس از دیگه برای مختلف به خارج میره.
Oui, soit c'est les petits commerçants qui le transforment, soit c'est le grand commerçant qui le transforme dans les labos au Pakistan ou dans les frontières et il envoie dans les pays étrangers un peu partout.
Les labos sont pas seulement au Pakistan, il y en a en Afghanistan aussi.
در خود افغانستان هم است، در خود پاکستان هم است، در دو جایش است.
یعنی اوسی این افغانستان و پاکستان.
Alors Alain Labrousse, essayez de nous faire comprendre la place du pavot et de l'opium à grands traits comme ça dans l'histoire de l'Afghanistan.
Eh bien, avant l'intervention soviétique, avant la guerre civile, c'était quelque chose, il y a toujours eu depuis très longtemps des cultures de pavot, puisque Marco Polo les aurait observées, on dit même Alexandre le Grand, d'autres disent Gengis Khan, bon, qui l'aurait introduit, mais avant 1979, on parle de 50 à 100 tonnes selon les années, avec une petite proportion faible qui est consommé traditionnellement par les Ismaéliens du Badarchan, et puis le reste qui s'en allait d'abord en Turquie, puis en Iran pour être transformé en héroïne. Mais on parle aujourd'hui de 6 000 tonnes, à l'époque 50 tonnes, vous voyez, c'était... Et vraiment, l'augmentation très importante s'est produite entre 80 et 90, surtout à partir de 85. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la stratégie des Russes était de bombarder les cultures pour affamer les Moudjahidines qui contrôlaient plutôt les campagnes. Ensuite, il n'y avait pas d'État afghan qui contrôlait les régions rurales, qui contrôlait les villes. Ils pouvaient faire des incursions dans nombreuses régions rurales, mais pas vraiment les contrôler. Et la troisième raison, c'est que les services secrets de l'armée pakistanaise, le ISI, Inter-Services Intelligence, couvrait en partie ce trafic parce qu'une petite portion était déviée vers des laboratoires qui travaillaient pour l'armée pakistanaise afin de lui fournir des fonds secrets pour financer la rébellion des Sikhs au Pendjab indien dans les années 80. Après ça s'est réglé et toujours jusqu'à aujourd'hui des Cachemiris. Donc les services secrets pakistanais avaient le monopole de la livraison d'armes aux Moudjahidines. Les armes américaines et saoudiennes, essentiellement, un peu chinoises aussi. Et en retour, ils revenaient de la frontière avec de l'opium qu'ils faisaient transformer. Donc, les services secrets de l'armée fermant les yeux sur l'ensemble du trafic, évidemment, ça a favorisé le débouché de l'opium et de l'héroïne afghane.
89, défaite soviétique. 92, chute du gouvernement communiste à Kaboul. Et là commence ce qu'on a appelé la guerre des Moudjahidines. Quelle est la place à ce moment-là de l'opium dans ce chaos total?
Alors, puisque les Américains, d'un côté, les Russes de l'autre, avaient arrêté de fournir des armes à leurs partisans, les Moudjahidines ont dû trouver des sources alternatives de financement. Et la plus importante a été l'opium. Donc, on a eu des guerres financé par l'opium, mais aussi des guerres pour contrôler la récolte d'opium, parce que c'était le nerf de la guerre pour les Moudjahidines.
Est-ce que ça a été aussi une source de financement pour les Moudjahidines de Massoud dans le Panjshir?
On doit répondre oui aujourd'hui, parce que on a cru, comme Massoud était un type assez honnête, rigoriste, etc. Il n'a pas directement, lui, participé, mais on sait aujourd'hui que, par exemple, Mohamed Daoud, qui est vice-ministre de l'Intérieur chargé de la lutte contre la drogue, aujourd'hui, était donc le ministre des Finances de Massoud, et qu'il récoltait des fonds, en particulier à travers le trafic.
C'est un beau village, hein. C'est vachement beau ce village, avec ses hauts murs de banco. Et c'est très beau parce qu'il y a des gros galets, des grosses pierres qui sont incrustées dans ces murs de pisée, au-dessus des portes de bois. Et puis il y a quelques animaux qui se baladent, une vache assez peinarde, là, hein. Quelques poules, poulets, le soleil cogne dur. Puis là-bas, il y a une petite pelletée d'enfants, des gamines là, qui se cachent, qui se planquent pour nous regarder, puis tout autour de nous des garçons. Et puis lui, il s'en va avec ses feuilles de maïs séchées.
On n'a pas croisé une seule femme,
des fillettes.
Almas nous expliquait que ici, de toute façon, les femmes ne portent pas de tchadri ou de burqa. C'est pas nécessaire, parce que comme tout le monde se connaît, qu'on est plus ou moins de la même famille, il y a une technique très éprouvée pour ça. Tu marches dans la rue, une ruelle comme ça, et que si jamais tu croises une femme, c'est simple, tu baisses la tête et tu regardes tes pieds et tu accélères le pas. Et elle, pendant ce temps-là, elle a qu'à s'arrêter de marcher, se tourner vers le mur et attendre que tu passes. Et une fois que tu l'as passé, bah, tu peux relever les yeux et continuer à regarder devant toi, bien entendu, et elle peut se détourner et reprendre sa marche dans le sens opposé.
Ouais. Alors que...
C'est l'alternative à la burqa, c'est ça, quoi. C'est jouer à cache-cache.
Dans un village donc d'Afghanistan où on produit et on vit complètement de la culture du pavot et de l'opium. On a dit tout à l'heure qu'au temps des talibans, les talibans avaient réussi à éradiquer la culture de l'opium. Voyons quelques précisions quand même sur ce moment historique avec Alain Labrousse.
Alors les talibans, par rapport à ceux qui les ont précédés, institutionnalisent le fait. Ils disent, exactement comme le disent les guérillas en Amérique latine, les FARC par exemple, ils disent, écoutez, tant que les pays occidentaux ne nous fournissent pas une aide importante pour substituer les cultures, on peut pas ôter le pain de la bouche des paysans. Donc, on les laisse cultiver en attendant que vous nous fournissiez une aide agricole. Mais comme les paysans paient un impôt islamique sur toutes les cultures, les productions légales, ça serait tout à fait absurde qu'ils ne paient pas aussi sur l'opium. Donc ils ont taxé de 10 à 20% les cultures d'opium. Et donc les talibans ont pris des taxes sur toute la chaîne, les chargements d'héroïne, les labos, et ces taxes rapportées selon les années, puisqu'il y a eu des variations de la production, entre 50 et 100 millions de dollars de taxes pour les talibans, ce qui représentait à peu près la moitié de leur budget.
Alors, 2001, c'est l'opération Enduring Freedom. Les B-52 bombardent l'Afghanistan. C'est la chute de Kaboul, c'est la chute, dit-on, des talibans. Que devient, à ce moment-là, la culture du pavot et de l'opium durant ces 5 années?
Alors, la première année, ça a été catastrophique, le fait de ne pas semer en 2000 et de ne pas récolter en 2001. Ça a été étudié d'ailleurs dans le Nangarhar. De nombreux paysans ont dû retourner dans les camps de réfugiés au Pakistan parce que ils n'avaient plus de quoi vivre. Donc ils se sont dépêchés de ressemer et il y a eu une récolte de 3200 tonnes en 2002. Bien que le gouvernement ait pris des décrets d'interdiction, etc. Mais là, on comprend parfaitement qu'il n'ait pas pu les faire appliquer, à peine installés, etc. Et les Occidentaux combattaient encore les restes des talibans, intervenaient à Bora Bora, etc. Donc ça se comprend. Ce qui se comprend moins, c'est que en 2003, on est passé à 3400 tonnes. En 2004, 4200 tonnes, il y a eu un bond. Mm-hmm. Alors là, les Américains, pour qui ce n'était vraiment pas une priorité, pour différentes raisons, parce que leur priorité c'était combattre les talibans, et il faut dire aussi que cette héroïne ne va pas aux États-Unis. Elle va dans les pays voisins, elle va en Europe, mais elle ne va pas aux États-Unis. Donc, les Américains, manifestement, fermaient les yeux sur tout ça, c'était pas leur priorité. En 2004, ils se rendent compte qu'avec ce bond de 800 tonnes supplémentaires, ça risque de financer leurs oppositions à l'intérieur. Donc là, ils augmentent le budget. Ils passent de 270 millions de dollars à 750 millions de dollars pour la lutte contre...
L'éradication? La lutte.
La lutte en général, hein, l'équipement des forces de police, etc. Ils font venir des dizaines d'agents de la DEA, l'organe spécialisé internationalement pour la lutte contre la drogue. Donc, ils font manifestement un effort, alors que jusque-là, ils avaient fermé les yeux. Mais le renforcement des talibans et de leur offensive en 2005 fait que le gouvernement et la coalition perdent le contrôle des zones rurales de l'Helmand, première région productrice. À Kandahar également, aussi dans les zones rurales, il n'y a pas de contrôle. Les talibans, là, font, ça semble avéré, une campagne pour encourager les paysans à planter davantage. À l'automne 2005, ils auraient affiché sur les mosquées des tracts disant que les paysans seraient protégés s'ils semaient, et qu'au contraire, ceux qui ne semaient pas seraient châtiés. Et donc, c'est un moyen de monter la population contre les gens qui font de l'éradication. Et là, effectivement, la production dans l'Helmand augmente de 160% cette année-là.
Vous avez dit 2005, 4100 tonnes, et 2006,
6100 tonnes.
Merci à tous à signaler un numéro de courrier international avec des papiers, des articles traduits de la presse afghane particulièrement intéressante pour à l'occasion de ces 5 ans de redressement tout à fait qui sont un échec finalement dans ce pays. Merci à Almas Bawar, merci à Alain Labrousse. Je rappelle le titre de son bouquin, Afghanistan, opium de guerre, opium de paix. Merci à Ramazan Bachardouze, merci surtout à tous les habitants du village de Sahel. Traduction Essan Meranguet. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission, vous pouvez aussi la réécouter sur le site là-bas.org, là-bas.org, avec beaucoup d'autres émissions, numéros de là-bas si j'y suis et tout un tas de bonus charmants. À la technique aujourd'hui, Aurélie Fortin et Eric Mainviel, c'est Yann Chouquet et Koy Nguyen qui ont réalisé cette émission, montée par Raphaël Moutère, l'assiste de Pascal Pascarillo, et Christophe Humbert vous attend près du répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.